nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. C'est impossible, celui parle d'ADN. Mais l'encre est vieille de combien de temps? La même époque que le livre, 200 ans. Il prend le livre. Bizarre, vieux livre de plus de 200 ans et qui parle d'ADN. Julien lui dit, ils se sont peut-être trompés. Gilbert lui dit, ils ne s'en forment pas. Julien lui dit, peut-être qu'on a mis un produit qui empêche de brûler, mais qu'il est indétectable. Gilbert lui dit, c'est vraiment mystérieux tout ça. Un produit indétectable, mais et l'ADN? Julien lui dit, peut-être que l'ADN veut dire autre chose. Julien Gilbert relise le livre. C'est bien l'ADN, le vrai. Gilbert dit, peut-être que la mère de Nathalie a raison, ce livre est dangereux. Julien lui dit, peut-être même, mais elles ne savent pas. Il est impossible de le brûler alors. Oui, peut-être bien, mais elles ne savaient pas qu'il était impossible de le brûler alors. Va mettre le livre dans le tiroir de son bureau. On verra plus tard. Du matin, Gilbert dort profondément dans son lit. Un homme, en noir, escalade le mur de sa cour, saute et se trouve dans la cour, va à la maison sans faire de bruit. Sur le côté gauche se trouve, à ras de terre, une fenêtre qui donne à la... de la lumière au sous-sol. Elle a des barreaux. L'homme se penche, sort de sa poche, de sa veste, une chose qui ressemble à un stylo. Il ouvre, le découpe, le décapsule, appuie sur un bouton de côté, et sort du stylo un rayon laser qui le dirige sur le barreau, et le barreau se casse. Puis l'homme prend de sa poche une petite... ventouse qu'il met sur la vitre. Avec un diamant, il découpe et enlève la vitre sans faire de bruit. Il passe la main et ouvre la fenêtre. Lance à l'intérieur une corde qui est maintenue au bout par un coulant. Il le maintient de la fenêtre. Il se met à plat ventre pour se faufiler dans l'ouverture de la fenêtre et descendre à l'aide de la corde. Une fois en bas, il prend une petite lampe de poche et voit que c'est un garde-manger. Il va vers la porte de sortie. Elle n'est pas fermée à clé. Il ouvre et sort. Des escaliers de pierre nus. Il les monte. En haut se trouve une porte. Il ouvre. Qui donne un couloir. En dessus, il y a des escaliers qui vont à l'étage. Il prend un papier de sa poche et regarde à l'aide de sa lampe de poche. C'est un plan de la maison. Il va monter les escaliers en essayant de ne pas faire de bruit. La maison est silencieuse. Ils semblent tous dormir. Arrivé au premier étage, il longe au couloir. Et là, il va ouvrir une porte. C'est une porte de bureau. Ferme la porte et entre. Il va à la bibliothèque. Il ouvre et regarde des livres. Et regarde derrière les livres aussi. Il n'y a rien de caché. Il y a beaucoup de livres. Il faut qu'il les fasse tous. Après une heure de recherche très minutieuse, il ferme la bibliothèque et va vers le bureau. Regarde dessus le bureau, rien. Il ouvre un tiroir, rien. Le tiroir d'à côté, il voit le livre. Il regarde, voit que c'est lui, le prend. Du bureau. Long du couloir, prend les escaliers, va vers les escaliers du sous-sol, il ouvre la porte. Et prend les escaliers du sous-sol. Puis, va prendre, ouvre la porte qui donne au cellier. Là, il va vers la fenêtre pour sortir, comme il est rentré. Remonte à l'aide de la corde, se tient à la corde, puis enlève la corde, la met dans sa poche, escalade le mur, le saute et se trouve dans la rue. Vite, il va à la voiture, traverse la rue, toi. Une ombre sort de l'ombre, se penche sur lui. La lame lui est entrée dans le corps. Il retire la lame ensanglantée. Ramasse le livre qui est tombé à terre. L'homme est inanimé. Il s'en va avec le livre sur le bras. Et disparaît dans la nuit. Il s'est arrêté à côté du cadavre. Deux hommes en sortent. Ils prennent le cadavre et le mettent à l'arrière de la voiture. Puis, ils entrent dans la voiture. Et mettent la voiture en route. Et elle disparaît dans la nuit. lendemain matin, Schubert se réveille comme d'habitude. Sur le trottoir, il ne reste aucune trace du crime de la nuit, pas une goutte de sang. Personne n'a entendu quoi que ce soit. Du larcin, il ne reste comme trace que la fenêtre sans barreaux ni vitres. Les domestiques ne s'en sont aperçus qu'une semaine plus tard, on allait chercher du vin dans le cellier. Le domestique est vite allé le dire à Gilbert, qui est au salon. À la porte du salon où Gilbert se trouve. Entrez, silence. Il dit à Gilbert qui est assis, un livre à la main. Monsieur, on a cherché à s'introduire chez nous. Quoi ? Le domestique s'approche. Elle lui dit, la fenêtre du cellier a été ouverte. On a cassé la vitre et le barreau a été enlevé. Gilbert dit, fouillons toute la maison. Il faut voir si on nous a pris quelque chose. Les domestiques et Gilbert cherchent de partout. Non, il n'y a personne à la maison, il n'y a rien à été volé. Le lendemain, il le dit à Julien. S'introduire chez moi, mais on n'a rien volé. Julien lui demande, même pas le livre ? Gilbert surpris. Oui, le livre, j'y pensais plus. C'est pas quelque chose qu'on a cherché à voler. Julien lui dit, il est chez toi ? Ils ne l'ont pas pris ? Gilbert lui dit, je ne sais plus. A tellement regardé de partout que je ne sais plus. Julien lui demande, tu te souviens ? Où tu l'avais mis ? Oui, dans le tiroir du bas de mon bureau. Le soir, en entrant chez lui, il va de suite à son bureau. Dans son bureau. Ouvre le tiroir. Le livre n'y est plus. Il regarde ailleurs. rien. Il sonne le domestique. Frappe à la porte. Entrez. Le domestique entre. Gilbert lui dit, est-ce que c'est vous qui avez pris le livre qui était dans le tiroir de mon bureau, là, le tiroir du bas? Non, monsieur. Gilbert lui demande, quelqu'un est-il entré dans mon bureau? Non, monsieur, à part vous et moi, pour le nettoyage. Gilbert lui dit, c'est ce livre qu'on est venu chercher. Le domestique lui dit, il faut prévenir la police, ce doit être un livre de grande valeur. Gilbert lui dit, ça ne servira à rien. Et puis ce livre, je l'ai trouvé par hasard, ne m'appartenait pas vraiment. Domestique lui dit, je comprends, monsieur. Bien. Parle de la disparition du livre à Nathalie. Elle lui dit, tu vois ce livre est bien étrange et ma mère semblait bien le connaître. Gilbert lui demande, elle t'a dit quelque chose? Elle lui dit, non, elle est en colère contre moi, elle boude. Gilbert lui demande, t'as reparlé du livre? Non, je crois qu'elle est gênée et n'ose pas m'en parler. Mais je ne sais pas si elle croit qu'il a été détruit. Donc tu n'as rien de nouveau. Elle lui dit, non, rien, rien du tout. Et toi? Moi non plus, à part qu'on m'ait volé le livre. En tout cas, cela prouve qu'il a de la valeur pour certains ou qu'il cache quelque chose de précieux. Mais quoi? Gilbert n'a pas revu M. de Genjus, qui a quitté Paris pour retourner à Lyon. Les jours passent. Un matin, Maurice est à son bureau, le téléphone sonne. Il a décroché. Monsieur, nous avons Monsieur Charme Jolibelle, du groupe Jeune Tout Pour Toi, qui désire avoir un rendez-vous avec vous.
C'est pourquoi?
Elle lui dit. Il veut vous proposer un projet. Maurice réfléchit et dit,
tu cuis demain matin à 10h.
Bien, monsieur.
Et il raccroche.
Comme le groupe Jeune Tout Pontois est marié à son groupe, pour chaque gros projet, ils sont obligés de lui demander son accord. Le lendemain, à 10h, l'hôtesse a fait rentrer dans le bureau de Maurice un jeune homme d'âge 25 ans, grand, mince, blond, costume crème, très distingué.
Elle appuie sur le voyant vers sa ligne. Entrez, monsieur, il entre. Maurice se lève en le voyant et dit, monsieur, venez vous asseoir. Bonjour, monsieur. Et il va s'asseoir en face du bureau.
Maurice lui dit, je vous écoute, monsieur, chante joli. Charme jolie belle.
Oui, monsieur Charme jolie belle, je vous écoute.
Le jeune homme lui dit, eh bien voilà, monsieur, je suis venu, si vous demandez la permission, c'est d'ouvrir des centres 3D où l'on peut vivre dans un monde virtuel d'histoire, de sexe, que l'on peut choisir, son époque, etc. Maurice lui dit,
oui, oui, je vois.
Il y a déjà eu des centres de ce genre, il y a déjà quelque temps. Comment ça se passait? Le jeune homme lui dit, bien voilà, monsieur, le client choisit son sujet. Et une fois qu'il a choisi une équipe spécialisée, propose un scénario pour lui, avec des personnages qu'il a envie de voir, l'époque qu'il a choisie, le décor et ce qu'il veut vivre, faire. Dans ce monde de 3D, il est entièrement libre de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas d'interdit, de valeur. Une fois que le scénario est prêt, et après que le client ait donné son accord, on le met en forme par des images virtuelles. Une fois que le décor, les personnages, etc., les personnages en 3D agiront d'après le caractère qu'on va leur donner et pourront, après, suivant la situation, agir. Ils seront, pour ainsi dire, comme des robots virtuels avec un cerveau qui leur sera fera comprendre et agir suivant leur situation. Vous me suivez? Maurice lui dit, à peu près. Le jeune homme lui dit, non mais le cerveau d'un robot, au lieu que ce soit dans un corps dur, il est dans un corps virtuel. Mais pour le robot, son cerveau, c'est la même chose. Pour lui, qu'il marche avec des jambes en dur ou en virtuel, il ne voit pas la différence. Un robot est un robot. Que son cerveau fasse marcher une machine dure ou sans substance, il s'en fiche. Donc, nos personnages seront des robots virtuels aux formes que voudra le client et avec le caractère qu'il aura choisi. Robot opérera suivant son environnement même virtuel, car pour lui, il sera vrai, et suivant la situation de ce qu'il va vivre. Mais il agira comme l'a prévu le client, suivant le caractère qu'a prévu le client. Boris lui dit, oui, ça va. Alors, l'homme lui dit, une fois que tout est prêt, on met le client dans une grande pièce, genre, disons, égout, vide. On lui fait enfiler une combinaison où ses sens du toucher auront des sensations de ce qu'il vit. Par exemple, la chaleur, s'il veut être dans un désert, la pluie, ou la douleur, le sexe, etc. La combinaison est remplie de puces qui vont lui apporter des sensations pour qu'il croie à ce qu'il vit. La combinaison est reliée par ondes à une table de mixage qui va visiter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il doit ressentir, toute l'histoire souhaitée par l'homme. Et à cette régie que l'on donne aussi les ordres aux robots, que l'on fait le changement de décor, etc. Le régisseur a un ordinateur, le scénario de l'aventure ou autre du client, le caractère des personnages. Il peut les faire évoluer suivant la situation, les faire bouger, parler, etc. Régie pour personnage, décor, sensation du client. On met en plus des lunettes 3D reliées à la régie pour les ondes. Pour ce qui est des besoins naturels, repas, etc., l'homme pourra manger dans ses rêves. Une personne lui apportera à manger à une table, s'il peut manger à une table, ou un morceau de pain s'il reste debout. Pour le reste, on le mènera aux toilettes en le déshabillant. Le client n'aura qu'à dire ce qu'il ne peut pas dire. La régie apprendra à le comprendre et une personne viendra le mener. Comme vous voyez, tout est prévu. Ce genre de choses se faisait avant coucher, sur une table. C'était plus simple et la personne était nue avec des tuyaux qu'il raccordait à des appareils pour les sensations. On lui donnait à manger sans qu'il ne bouge et à faire ses besoins aussi. Je lui dis, oui mais là, on essaye c'est de lui laisser quelques mouvements pour qu'il ait vraiment la sensation de vivre son aventure. Maurice lui dit, tout ça peut coûter très cher. Jeune lui dit, le plus cher c'est la préparation, le scénario, la création de personnages et les décors, plus le goût et les sensations. Après, c'est qu'une histoire de mixage. Chaque personnage a une disquette, les décors aussi, et l'on mixe tout ça en y ajoutant les odeurs, sensations. On fait attention de faire évoluer l'histoire comme le veut le client. C'est un peu comme un spectateur regardant un film ou entrant dans un film plutôt. Oui, mais en mieux. Maurice lui demande, vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient s'amuser à ça? Je lui dis, oui, plus d'un je crois. Mais le prix doit être très élevé. Oui, bien sûr, mais l'on peut amortir le prix en proposant au client, c'est d'enregistrer son aventure et de la vendre aux télévisions. S'il accepte, on lui fait un prix d'ami. Maurice lui demande, allez-vous enregistrer ça? Mon magnétoscope est sur la table de mixage. Elle enregistre ce que l'on fait passer, images, sons, les personnages virtuels et les décors. Pour ce qui est du client, comme lui est réel, c'est un humain, on le scanner en temps réel en personnage virtuel, qui lui ressemble à peu près. Ce qui fait que le téléspectateur ne verra qu'un film en image 3D comme un autre, et le client gardera son anonymat, on ne le reconnaîtra pas. Maurice lui dit, c'est assez intéressant, et ça nous fera des films sûrement captivants. Sorti de l'imagination d'une personne. Oui, je ne dis pas non, mais je veux voir le coût de la chose, parce qu'avec vous, votre groupe, vos projets coûtent très cher. Le jeune homme lui dit, j'y ai pensé et j'ai amené le dossier. Merci.
Je vais le lire, après je vous dirai ce que j'en pense.
Merci, monsieur.
Maurice se lève, lui tend la main, le jeune homme se lève.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Et le jeune homme le quitte.
Maurice lit le dossier.
Maurice a lu le projet. Il le trouve bien étudié. C'est cher, mais ça peut aller. Il donne son accord. Monsieur Charles Jolibel lance son projet. Il a un budget pour ça.
Il a acheté un terrain près de Paris. Construire un centre. Il sera un grand immeuble carré.
Ou sur le devant, il y aura un grand hall d'entrée. Service clientèle, accueil, à l'étage, les scénaristes. Plus haut, des dessinateurs de décors et personnages. Plus haut, les créateurs de disquettes pour chaque personnage et décor. Dans les disquettes, il y a le caractère du personnage. Et dans les disquettes, il y a aussi les sensations. Par exemple, pour le décor, il y a la sensation, si on est dans le désert, il y a la sensation du chaud, etc.
Il y a le service qui révise ce qu'a fait les dessinateurs, les ingénieurs informatiques et les scénarios. Ils corrigent des erreurs et en rajoutent. Ils font la connaissance de l'aventure qu'ils doivent faire vivre avec les personnages. Et s'il y a pour l'enregistrement télévision, pour rajouter en scannant le client sur le canal qui enregistre. Ce qui fait que ce service est un service qui regroupe tous les autres services pour pouvoir faire un produit. Qui regroupe tout ce qui a été fait.
Derrière ce siège, il y a un immense hangar avec cuisine, WC, les combinaisons et lunettes. La régie, bien entendu, est surélevée, qui domine le tout. C'est là que le client vivra son aventure, isolé de l'extérieur
du bruit de la vue. Une fois que l'équipe est prête, c'est une équipe d'ingénieurs de haut niveau, issue d'informatique, avec des ordinateurs très performants, et puis aussi des professionnels de l'ADN. Et des ingénieurs scénaristes. On fait de la pub de partout, en Afrique, au Japon, dans le monde entier, par affichage, journaux, internet, télévision, radio. Les premiers clients, hésitants, y vont par curiosité. Ce sont des accros de la nouveauté et des jeux vidéo, plutôt des jeunes. Le prix les fait hésiter, bien entendu, mais certains, au lieu de se payer des vacances, décide d'y aller voir. Au début, ils sont gênés. Ils ne savent pas quoi demander. Le dépliant pourtant leur dit que tout est permis. Mais la honte, la timidité les empêchent d'aller trop loin. Alors beaucoup commandent des voyages à l'étranger. Et lorsqu'on leur propose des personnages, ils commencent à demander des gens qui leur plaisent. Sauf que le scénario est laborieusement fait, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Un mois plus tard, ils vont au centre pour l'aventure. Ils entrent timides, intimidés. Puis, lorsque l'aventure est commencée, ça va mieux. Et une fois que le séjour est fini, ils reviennent enchantés et regrettent de ne pas avoir demandé autre chose. Ils en parlent à leurs amis, etc. Et petit à petit, les gens entendent. Et demande de plus en plus ils veulent savoir si c'est vrai ce qu'on leur a dit. Ça devient une chose à la mode. Tout le monde en parle et veut essayer la chose. C'est ultra branché de faire ça. C'est mieux. Que tout.
parce que l'on peut demander n'importe quoi, n'importe quelle chose. Les femmes sont très excitées, peuvent avoir à faire un bel éphèbre sans être jugées et sans risque. Les hommes aussi. Ils aiment être entourés par de belles filles. Jean, OSS 117, années 70. Les cheveux blonds. Les hommes jouent les jeunes hommes. En faisant des aventures avec de belles filles. C'est le pied, on pense qu'à ça. Petit à petit apparaît des accros de ce genre de choses. Ils viennent constamment au centre et veulent toujours la même aventure. Pour eux, c'est simple. Leur programme est déjà prêt. Ce sont des clients fidèles. Pour les clients fidèles, il y a une carte fidélité à un prix très avantageux. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui ne supportent pas la vie réelle ni les êtres. Il y en a qui ne peuvent être comblés sexuellement que de cette façon, à cause de leurs goûts spéciaux. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.